Bonjour à tous, il est 13h30 sur 48FM et vous écoutez le journal présenté par Marie Flabat.
Bonjour, voici les titres du journal. L'accident de car en Suisse qui a fait 28 morts ce mardi est toujours dans les esprits. La plupart des corps ont été identifiés et beaucoup de dommages sont organisés à l'intention des petites victimes. Plusieurs séismes ont été enregistrés hier soir au Japon et en Nouvelle-Guinée. En sport, hier se jouait la Champions League. Ce sont Chelsea et le Real Madrid qui en sont sortis vainqueurs. Et ce soir, rencontre capitale pour les Rouges qui joueront leur avenir sur la scène européenne lors de leur rencontre avec le club d'Hanovre. Malheureusement, c'est encore la terrible catastrophe de Sierre qui a eu lieu mardi en Suisse qui fait la une de notre journal aujourd'hui. Au fil des heures, nous en apprenons de plus en plus. Les enquêteurs et les responsables sont toujours à l'œuvre sur place pour encadrer les familles des victimes, mais aussi pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Arnaud Dombier fait pour nous le point sur la situation. Arnaud, le gouvernement est donc en train d'organiser les rapatriements et on parle toujours de 3 enfants dans un état critique, c'est bien ça ?
Effectivement Marie, une terrible catastrophe, vous le disiez, le car de la compagnie Top Tour s'est donc encastré ce mardi soir sous le coup de 21h, comme vous le savez, dans un tunnel du canton du Valais. Un bilan provisoire important qui est toujours de 28 morts dont 22 enfants. Enfants issus de 2 écoles belges, 26 personnes provenaient de l'école de Everlay et les 24 autres de l'école communale de Lommel. Vous le rappeliez aussi, il y a 24 enfants blessés et toujours hospitalisés, 3 enfants dans un état critique à l'heure où nous parlons. Ces 3 enfants sont pour l'instant pris en charge dans l'hôpital universitaire de Lausanne. Le médecin en chef urgentiste du canton, le docteur Jean-Pierre Deslarz, a déclaré qu'il présentait des lésions potentiellement plus graves que les autres. Parmi les 24 blessés, 6 enfants avec des blessures plus légères pourraient quitter l'hôpital aujourd'hui ou demain. Du côté de l'enquête, on avance toujours 3 hypothèses pouvant expliquer l'accident, mais l'on peut déjà éviter celle de la vitesse excessive. Les enquêteurs disposent en effet des images de l'accident qui prouvent que ni la vitesse ni l'intervention d'un autre véhicule ne pourraient être prises en compte. 3 pistes toujours à explorer, l'erreur de conduite, le malaise du chauffeur ou un problème mécanique. Le gouvernement organise, lui, au plus vite le rapatriement des corps et le Premier ministre Elodie Rupo déclarait qu'il débuterait dès que l'identification des victimes aura pu être effectuée, c'est-à-dire au plus tôt dans la journée. L'armée a mis à disposition 2 C-130 Hercule pour se charger du transport, l'Airbus A310, affrété par le ministère de la Défense, reste lui à disposition des familles.
Les hommages affluent des 4 coins du globe et le deuil national est décrété par le gouvernement belge. Justine Pack nous en dit plus.
Hier, le pays entier était plongé dans la tristesse. Aujourd'hui, la plaie reste béante. Un peu partout, des cérémonies d'hommage prennent forme. À Everlay, village de 17 enfants décédés dans l'accident, une veillée était organisée mercredi soir en hommage aux victimes. Les parlements wallons, flamands et européens ont observé une minute de silence hier matin. La ministre de l'Enseignement, Marie-Dominique Simonnet, enverra une circulaire dans la journée. Celle-ci proposera aux écoles de tous les réseaux d'effectuer un moment de recueillement vendredi. Le football compte également marquer son soutien aux familles. Dimanche, une minute de silence sera marquée avant le coup d'envoi des matchs de la DA. Face à un soutien sans frontières, plusieurs personnalités ont présenté leurs condoléances aux victimes et à leurs familles. Parmi elles, on retrouve Nicolas Sarkozy, François Fillon et Barack Obama. Le gouvernement belge a décrété qu'un jour de deuil national serait observé, dont les modalités seront connues ultérieurement. Le principe du deuil national n'est encadré par aucune disposition juridique. Il n'existe que l'usage, qui est d'ailleurs assez rare. Il se manifeste sous des formes variables. On sort les drapeaux qu'on accroche aux façades ou on reporte des événements sportifs et festifs. L'octroi d'un jour de congé dans les administrations est beaucoup plus rare. Quoi qu'il en soit, certaines administrations publiques ont déjà sorti leur drapeau et mis à disposition des carnets de condoléances.
Toujours dans l'actualité belge, hier soir, peu avant 22h, un incendie s'est déclenché dans une maison de repos à Gand. L'origine du feu n'est pas encore connue, mais il l'aurait pris dans la cuisine. 16 personnes intoxiquées par la fumée ont été hospitalisées dans divers hôpitaux de Gand. Aucune ne souffrirait de blessures graves ni de brûlures. Quant aux autres résidents, ils ont été évacués et relogés. À l'international, 2 séismes de magnitude supérieure à 6 se sont produits hier sur les côtes japonaises. Le tremblement a provoqué un mini tsunami sur le littoral. Plus d'informations avec Maud Brassard et Arnaud Dombier.
Une frayeur de plus pour les Japonais. C'est hier en début de soirée que la grande île japonaise de Honshu a tremblé. Un premier séisme d'une magnitude de 6,8 précisément s'est déclaré vers 18h09, heure japonaise. Son hypocentre était situé à 10 km de profondeur. Un séisme est considéré comme fort à partir d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Il peut alors être destructeur dans une zone allant jusqu'à 180 km à la ronde. La première secousse a déclenché une mise en garde contre un risque de tsunami, mais les vagues n'ont finalement atteint que 10 à 20 cm sans provoquer de dommages. L'alerte anti-tsunami a ensuite été levée à 19h40, heure japonaise également. 3 heures après, une deuxième secousse de magnitude 6,1 selon l'agence météorologique japonaise s'est déclenchée, mais cette fois à quelques dizaines de kilomètres seulement de la terre ferme. Le deuxième tremblement a pu être ressenti à Tokyo, mais aucune alerte au tsunami n'a été lancée cette fois. Dans les deux cas, aucun dégât n'a été signalé. La compagnie d'électricité des régions touchées ont affirmé que ni les sites ni la centrale de Fukushima Daiichi n'a subi aucun dommage.
Toujours dans ce domaine, un autre séisme a été enregistré hier soir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le tremblement de magnitude 6,4 s'est produit à 21h13, heure belge. Par contre, là-bas, aucune alerte tsunami n'a été émise. Et maintenant, de retour à Liège, où Michel Dardenne reste le plus populaire des politiques liégeois. Papa obtient une 15e position en Wallonie, mais reste le plus plébiscité des Liégeois selon le baromètre réalisé par Le Soir RTL Ipsos. Une place étonnante, alors que sa présence politique et médiatique est en chute libre. Toujours à Liège, mais dans un domaine un peu plus polémique, Dieudonné a donné deux représentations hier de son spectacle intitulé « Rendez-nous Jésus » à Herstal, Raquel Canales y Garcia.
Hier soir, plus d'un milliard de personnes ont assisté au spectacle de l'humoriste Dieudonné. L'invitation de l'humoriste à Liège avait provoqué un grand débat. Pourquoi son show avait été, il y a peu, interdit à Bruxelles? Dieudonné, lui, avait été condamné en France en 2004 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse. Des policiers fédéraux ont donc dû assister au spectacle après avoir reçu une demande de la part du Centre pour l'égalité des chances, afin de prévoir les possibles débordements verbaux de l'artiste. Le spectacle a été enregistré dans sa totalité afin d'avoir la possibilité de supprimer les propos racistes et antisémites de l'humoriste. Mais finalement, le spectacle a été un succès et tout s'est bien passé à la fabrique. Aucun incident n'a été signalé. L'artiste a fait rire un public majoritairement masculin, notamment lorsqu'il a imaginé un nouveau Jésus africain qui répondait à son propre portrait. Le bonheur était bien présent à Liège hier soir, avec polémique mais sans accident.
On part en sport maintenant. Hier ont eu lieu les deux derniers matchs de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on aura le retour de l'Europa League. Le Standard de Liège jouera un de ses matchs les plus importants de la saison. Fernando Cruz Trigo nous donne quelques explications.
Le Real Madrid et Chelsea ont éliminé hier soir les CSKA Moscou et Naples respectivement. Ils sont maintenant dans les quarts de finale de Coupe d'Europe. Les deux matchs ont été finis avec les mêmes résultats, 4-1. Les quatre autres équipes qui sont déjà passées aux phases suivantes sont l'Olympique de Marseille, Milan, le Football Club Barcelone, le Bayern Munich, Benfica et Apoel Nicosie. Aujourd'hui, à midi, aura lieu le tirage au sort pour connaître quelle équipe se rencontreront en quart de finale. Et on continue avec le football parce que ce soir se joueront tous les matchs de retour de l'Europa League. Le Standard de Liège jouera contre Hanovre. Le groupe de Jose Rira cherchera les résultats qui les mènera au quart de finale. Et on finit avec le tennis parce que l'Espagnol Nicolas Almagro s'est qualifié pour les quarts de finale à Indian Wells. Le numéro 12 de l'ATP devra faire face à Roger Federer. De l'autre côté, le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, jouera contre l'Argentin David Nalbandian, une laissée-passer pour les demi-finales du premier Master 1000 de la saison.
C'était un journal présenté par Marie Flaba. C'est le moment de sortir et de profiter du beau temps. Merci d'avoir écouté 48 FM et à demain. 48 FM.